9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran vous salue, les amis, ravis de vous retrouver comme tous les samedis matins de 9h à 10h pour tenter de répondre à votre acasserie juridique et ou judiciaire. Un petit échange d'une heure qui, je l'espère, vous sera profitable. Et si vous êtes trop timide pour passer à l'antenne ou si vous ne parvenez pas à nous avoir, vous pourrez appeler directement sur le 06 62 58 59 64, voire même envoyer un mail. Je sais, je suis ultra connecté sur maître.serran@gmail.com. Mais ne vous emballez pas avant de vous jeter sur vos téléphones, évoquons l'actualité de la semaine et une actualité marquée par ce fameux 8 mars, journée internationale de la femme. Et oui, l'homme est un grand seigneur. Il est prêt à accorder à celle qui est sa mère, sa fille, son épouse, sa concubine, un jour dans l'année. Mais en fait, à quoi sert ce jour? Il sert le plus souvent à faire un constat qui est toujours le même. Quand tu es en couple, à ton avis, qui s'occupe des enfants, du ménage, de la cuisine? Le plus souvent, et je suis gentil avec l'expression le plus souvent, j'aurais pu dire tout le temps, la femme. Au sein d'une entreprise à poste égal entre un homme et une femme qui touche le salaire le plus bas. La femme qui est le plus emmerdée dans la rue. La femme, est-ce qu'un jour t'as déjà entendu une femme siffler un homme et lui dire qu'il avait un beau cul? Et puis, cette journée de la femme permet de faire ce décompte macabre. 109 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur partenaire, leur conjoint, leur concubin ou leur ex en 2022. En 2023, 31 femmes ont perdu la vie et je me demande même si mon information est à jour. Je me suis penché sur les études concernant les féminicides et on apprend plein de choses. Les femmes meurent après avoir été tabassées, coups de pied, coups de poing, étranglement. Elles meurent souvent poignardées, égorgées, mais comme ce n'est manifestement pas suffisant, certaines sont parfois démembrées, elles meurent défenestrées, elles meurent percutées par la voiture du conjoint, elles meurent après avoir reçu un coup de fusil, un coup de pistolet, elles sont parfois empoisonnées, étouffées, brûlées vives. Et oui, l'imagination de l'homme n'a manifestement pas de limite quand il s'agit de faire du mal comme un lâche à celle qu'il sait, physiquement plus faible. J'ai découvert également que, quel que soit son âge, une femme n'est pas à l'abri de violences conjugales. Elle peut se faire tabasser à mort à l'âge de 20 ans, mais la violence conjugale existe aussi au sein de couples âgés de 80 ans. Est-il utile de rappeler enfin que les auteurs de violences faites aux femmes sont de toute nationalité, de toute religion? C'est peut-être un triste point commun que partagent les hommes de cette planète. Allez, que vous soyez une femme ou une femme, n'hésitez pas à nous appeler au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui, comme nous tous, a sa part de féminité. Monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Merci, maître Serran. Je vais justement la laisser exprimer ce matin ma part de féminité. Alors, Faudil Benhamri qui réalise cette émission, vous voulez témoigner lui aussi qu'il se fait souvent siffler dans la rue, hein, très très souvent.
Ouais. Et on fait référence à son physique. Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Je ne sais pas pourquoi il se fait siffler par contre.
Non, mais carrément pas Philippe quand même.
Hein?
Non.
Bah, tu viens de le dire. C'est de la timidité.
Non, mais voilà. Je t'ai pas dit.
Comment? Il est en train de rougir là en plus. C'est ça qui est fou. C'est chaud.
Ah, il se fait siffler. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'il est trop beau ou pas assez.
Pas assez, oui.
C'est ça, à mon avis.
Ouais.
Bon, vous pouvez poser toutes vos questions juridiques à Maître Serran sur tous les sujets ce matin, au 01 53 48 3000. On va parler d'un sujet, le compromis de vente, Maître Serran, et voir à quoi il engage. Mais est-ce que le compromis de vente, c'est la même chose que la promesse de vente ou ça n'a rien à voir?
Alors, c'est la même chose.
La même chose.
Oui, on parle de... Alors, le terme, comme dirait l'autre, technique, c'est la promesse synalagmatique.
Oula.
Voilà, oui, je sais bien.
Ça vaut des points, hein, au Scrabble, ça.
Ouais. Donc, promesse synalagmatique, ce qui veut simplement dire, en fait, qu'il y a deux personnes qui sont concernées.
Ah, c'est tout.
Oui, c'est tout. Bon. Ça veut juste dire ça. Et alors, pourquoi je voulais évoquer le compromis de vente? Parce que... alors, d'abord, on va expliquer le compromis de vente. C'est ce qu'on appelle un avant-contrat ou un pré-contrat, c'est-à-dire que ça vient juste avant la signature définitive d'une vente d'un bien immobilier.
Mais pourquoi faire un avant-contrat? Alors, parce qu'il va y avoir un contrat.
Alors, l'avant-contrat, pourquoi ? Parce que, alors, sauf, évidemment, si vous achetez votre bien immobilier, vous le payez comptant et vous vous demandez pas de crédit, vous n'êtes pas concerné par par ce compromis de vente. En règle générale, le compromis de vente va permettre à l'acheteur de s'organiser. C'est-à-dire qu'il y a un bien qui vous intéresse, sauf que ce bien, pour des raisons lambda, vous ne pourrez pas le payer immédiatement. Et puis, très souvent, les personnes donc vont recourir à un crédit. Mmh. Mais en attendant que cette demande de crédit soit formalisée auprès de la banque, en attendant d'avoir une éventuelle réponse positive, il faut bien sécuriser cette relation juridique entre celui qui va vendre et celui qui va acheter. Alors, sécuriser pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on va contracter avec l'acheteur, moi, mon bien que je vais mettre à disposition, il va être immobilisé. C'est-à-dire que si je signe un contrat avec vous, mon cher Philippe, même si demain j'ai une autre proposition, eh ben, je ne pourrai pas, sauf ensuite à être sanctionné financièrement, mais je ne pourrai pas annuler notre, entre guillemets, notre futur contrat. Donc, pour sécuriser tout ça, on va signer un compromis de vente. Alors, c'est un compromis de vente qui dit quoi ? Qui dit que le vendeur est prêt à céder son bien et puis on va déterminer toutes les caractéristiques de son bien. On va déterminer le montant de son bien et il y a une règle en droit. À partir du moment où on est d'accord sur la chose, c'est-à-dire sur l'objet de la vente et sur le prix, le contrat est définitif.
C'est-à-dire que ça ne peut plus changer.
Ah non, ça ne peut plus changer.
Inflation ou pas ?
Voilà, sous réserve évidemment, de ces fameuses, on appelle ça des conditions suspensives, qu'on va évoquer, et si ces conditions suspensives sont levées, le contrat devient définitif. Alors, très souvent, cette condition suspensive concerne quoi ? Elle concerne le crédit. Et ça, c'est important, parce que dans ce contrat, il sera précisé que ce bien X, au prix de tant, l'acheteur va se rapprocher de sa banque et demander un crédit. Et dans ce contrat, on va déterminer toutes les caractéristiques de ce crédit. Donc le montant, le taux du crédit, la durée du crédit. Et ça, c'est important parce que si dans le contrat, il est indiqué que vous avez besoin de 200 000 euros sur une période de 15 ans avec un taux, alors je sais pas, 3,5%, peu importe, et que vous formalisez cette demande auprès de votre établissement bancaire, si vous respectez toutes les conditions du contrat, et que l'établissement bancaire, pour une raison lambda, vous refuse ce prêt, c'est ce qu'on appelle cette condition suspensive, va vous permettre de dire, bon, j'ai pas obtenu mon crédit, donc je vais pouvoir mettre fin à ce contrat, tant pis, j'essaierai de trouver un autre projet. Si toutes ces conditions sont énumérées dans votre compromis et que vous faites une demande de crédit, mais sans respecter, alors par exemple, le montant demandé. Voilà, si il est écrit 200 000 euros et puis vous vous demandez 250 000 euros et si demain la banque dit, bah non, 250 000, c'est pas possible, vous ne pourrez pas vous retirer de ce contrat sans une clause
de sortie.
De sortie, là, cette clause de sortie, c'est pas négligeable, c'est 10% du prix de vente. Et ce montant 10% du prix de vente, il est, puisqu'en règle générale, très souvent, ça se passe devant notaire, il est bloqué. Donc cette somme de 10%, elle est bloquée entre les mains du notaire. Et si vous, acheteur, vous n'avez pas respecté les conditions, vous allez perdre tout simplement ces 10%. Alors, vous n'allez pas les perdre, on va dire, automatiquement. Ça se passe comment ? Le notaire va vous demander si vous avez respecté toutes les conditions dans un délai déterminé. En règle générale, vous avez un délai d'un mois qui peut être renouvelé une ou deux fois en fonction de la diligence des établissements bancaires. Mais passé la date butoir, le notaire va vous envoyer un courrier pour vous dire « Monsieur, Madame, vous n'avez pas respecté les délais, donc vous risquez de perdre ces 10% qui ont été bloqués. » En droit, on dit « séquestré » entre les mains du notaire. Mais le notaire va vous poser la question en disant « Est-ce que vous acceptez, en gros, est-ce que vous reconnaissez ne pas avoir respecté les conditions du contrat et donc vous m'autorisez à verser cet argent, donc ces 10% au vendeur ?» Ou alors, si vous n'acceptez pas, Cette somme va rester bloquée jusqu'à ce qu'un tribunal soit saisi et rende une décision de justice. Je vais être clair avec vous, il faut savoir que l'acheteur ne respecte pas les conditions du contrat à la lettre, il est certain qu'il sera condamné donc à ces fameux 10%. Mmh. Donc le notaire sera autorisé à verser cet argent au vendeur, plus éventuellement des dommages et intérêts. En droit, on dit qu'il s'agit d'une procédure abusive, c'est-à-dire que je sais que je suis en tort, mais pour embêter l'autre, pour pas dire autre chose, je vais quand même le forcer à aller devant le tribunal. Donc vous risquez d'être condamné et à ces 10%, alors ça c'est une certitude, et à des dommages et intérêts. Mais cette règle s'applique également pour le vendeur, c'est-à-dire que moi je m'engage à bloquer mon bien et à vous le céder, mon cher Philippe, mais si pour des raisons lambda vous faites vos démarches et puis du jour au lendemain je vous dis bah écoutez, moi ce bien je l'ai déjà vendu à quelqu'un d'autre, à mon tour je serai obligé de vous indemniser à hauteur de 10% de ce fameux prix de vente. Donc l'intérêt de ce contrat, c'est de faire en sorte que le vendeur ne bloque pas son bien inutilement, voilà, et que on s'assure que l'acheteur est un acheteur sérieux. Et même chose pour l'acheteur, c'est-à-dire que l'acheteur va s'engager à faire toute une série de démarches qui sont parfois pénibles. À partir du moment où vous demandez un crédit à un établissement bancaire, on sait que c'est toujours compliqué. Et en attendant de faire ça, il veut s'assurer que ce bien sera toujours à disposition. Donc la difficulté, c'est qu'on a souvent des personnes qui se disent le crédit ne m'a pas été accordé, tant pis, puis je récupère mon argent et puis je vais aller voir ailleurs. Non, il faut savoir que vous avez déjà signé un contrat, et à partir du moment où vous ne respectez pas les clauses de ce contrat, à partir du moment où évidemment vous êtes fautif, c'est-à-dire que si la banque vous dit je ne vous accorde pas le crédit malgré toutes les conditions que vous avez évoquées, bon, là vous récupérez vos 10% et on passe à autre chose. Mais s'il y a un soupçon de mauvaise foi, bien évidemment, vous perdrez cet argent. J'ai eu un dossier récent où un homme est venu pour contester devant la cour d'appel la décision qu'il avait condamné dans un cas similaire où il n'a pas respecté les conditions. Voilà, moi j'ai déconseillé d'interjeter appel puisque c'était ultra carré. Donc à partir du moment où évidemment, encore une fois, vous signez ce type de contrat, ça vous engage. Et c'est pas parce que ce contrat n'est pas signé devant notaire qu'il aurait moins de valeur.
C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Vente.
La vente définitive, évidemment, monopole du notaire, mais le compromis peut se faire. Alors très souvent, c'est l'agence immobilière elle-même qui imprime le compromis et puis qui vous fait signer ça. Mais vous êtes même pas obligé de passer par une agence immobilière. C'est-à-dire, ça peut se faire de particulier à particulier. Maintenant, il est certain que comme on a quand même une somme d'argent, encore une fois, ça correspond à 10%, donc c'est pas négligeable en fonction du prix de vente qui doit être séquestré. Pour sécuriser, comme on dit, le contrat, il n'y a pas mieux que de passer devant un notaire. Comme ça, il n'y a pas de difficulté, tout est carré. Et si, encore une fois, si il y a un litige entre le vendeur et l'acheteur, au moins cette somme est séquestrée, elle ne bouge pas. Et puis vous la récupérez en fonction du résultat du jugement rendu par le tribunal, qui en l'occurrence est le tribunal judiciaire, l'ancien tribunal de grande instance.
Alors qu'est-ce qu'on appelle la réitération du compromis de vente ?
C'est simplement vérifier que dans le délai qui a été déterminé, encore une fois dans cet avant-contrat, on va vous dire, écoutez, toutes ces conditions doivent être réunies dans un délai d'un mois, deux mois, trois mois. Il ne faut pas non plus que le vendeur bloque son bien pendant X temps. La réitération, c'est dire, moi, toutes les conditions ont été réunies. À partir du moment où toutes les conditions sont réunies, et notamment j'ai obtenu mon crédit, donc cette fois-ci, on va se retrouver devant le notaire pour cette fameuse signature définitive. Et donc vous devenez officiellement propriétaire du bien. Et ces fameux 10% sont évidemment affectés au prix de vente.
Maître Serran, alors vous allez pouvoir poser vos questions dans un instant en direct sur tous les sujets bien sûr juridiques au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. De Heure FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, AVS avec Maître Serran tous les samedis en direct hein, entre 9h et 10h. Et Maître Serran répond à toutes vos questions juridiques au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. On parlait il y a un instant du compromis de vente, mais compromis porte peut-être mal son nom puisque finalement c'est un contrat Maître Serran plus engageant qu'il n'en a l'air.
Ah, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que lorsque les personnes, et en particulier lorsque ce document est signé au sein d'une agence immobilière, on a l'impression que c'est pas si grave que ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à la limite, vous allez signer devant notaire, il y a le côté un peu officiel de la chose, et puis le notaire prend quand même le temps de vous expliquer les conséquences de cet engagement. Au sein d'une agence immobilière, c'est un peu plus souple. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est simplement à tes souhaits. Faut-il
va te laver les mains, s'il te plaît. Et gel obligatoire. Les seniors que nous sommes avons peur de toutes les maladies qui peuvent circuler. Ouais. Merci Faudil.
Je disais effectivement, quand vous signez ce type de document dans un coin de table au sein d'une agence immobilière, il y a pas ce côté solennel, et donc on a l'impression que le non-respect des conditions, et ben ça ira pas plus loin. Donc il faut vraiment faire attention à ça, parce que et on comprend aisément, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous respectez pas les conditions, vous imaginez bien que le vendeur, va pas vous lâcher. C'est-à-dire que lui a monopolisé son bien, donc il se dit je vais à minima récupérer, ce qui est légitime, hein, récupérer 10%, en tout cas ces fameux 10% qui ont été bloqués. Verser cette somme-là qui correspond à 10% de la vente en échange, on va dire, de rien concret.
De rien, ouais.
Évidemment, ça peut faire mal. Donc résultat. Soit vous comprenez que vous êtes dans l'erreur et puis il récupère ses 10%, mais encore une fois ça peut faire mal, soit vous voulez contester tout ça, mais ça va vous coûter des frais puisque la procédure se fait devant le tribunal judiciaire l'avocat est obligatoire, donc ça risque de vous coûter et les 10% et les frais d'avocat et éventuellement des dommages et intérêts pour ce qu'on appelle résistance abusive.
Donc résistance.
Ah oui, c'est en gros vous emmerdez tout le monde alors que vous êtes en tort. Voilà, donc ça se traduit par ça. Donc il faut quand même, quand on signe ce type de document, d'abord en règle générale s'assurer, avoir un contact préalable avec son établissement bancaire et dire écoutez voilà pour si je demande tel montant, est-ce que éventuellement ce sera accordé. Donc il faut pas aller voir votre banque la toute première fois avec ce compromis. Faites les démarches évidemment préalablement, ça vous permettra d'éviter ce genre de tracasserie qui risque évidemment de coûter financièrement très cher.
01 53 48 3000, vous interrogez Maître Serran et c'est Yamina qui est avec nous. Bienvenue Yamina.
Bonjour tout le monde, bonjour tous les invités. Je voulais poser une question s'il vous plaît à Maître Serran.
Oui, bien sûr. Allez-y Yamina, Maître Serran vous écoute Yamina. Avec ses deux oreilles en plus.
D'accord, merci beaucoup. Monsieur Serran, bonjour.
Bonjour Yamina.
Je suis en instance de divorce avec monsieur. On a un appartement en commun, c'est-à-dire on est propriétaires les deux.
D'accord.
Seulement, il reste un crédit à charge. Donc, comme on a passé la non-conciliation, la juge des affaires familiales de Créteil nous a demandé, moi, je paie la moitié de la taxe foncière, lui, la moitié de la taxe foncière, et moi, je suis en train de payer le crédit le plus important. Là, en ce moment, j'aimerais juste avoir votre conseil pour votre avocat. Il me demande de faire un divorce à l'amiable seulement, et je reste avec dans la maison parce que moi, je voulais pas la garder, cet appartement. Je me sens pas bien dedans, j'ai pas envie de le garder. Il me demande, monsieur, de rester avec et de lui enlever le divorce pour ça. Et contre ça, il me paierait là, tout le temps jusqu'à la fin la moitié de la taxe foncière, c'est-à-dire moi 500 euros à lui, 500 euros à lui. Et moi, je garde le crédit principal. Et je ne sais pas quoi faire. J'arrive pas à me décider, en fait.
Alors, d'abord, madame, vous me dites que ce bien ne vous intéresse pas. qu'est-ce qui ferait que, avec cette proposition de monsieur, ce bien deviendrait intéressant. Si vous intéresse pas, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez évoqué la première décision prise par le magistrat, et le juge, on vous a attribué la jouissance du domicile conjugal, alors à charge pour vous de régler le crédit, et puis évidemment tout ça se discutera ensuite dans ce qu'on appelle la liquidation de la communauté. Mais si ce bien vous intéresse pas, vous savez que vous avez vous aussi la possibilité, alors soit de dire, écoutez, moi ce bien m'intéresse pas, si monsieur veut le récupérer, qu'il le récupère, ou alors si personne n'est intéressé par ce bien, dans ce cas-là, vous pouvez décider de le mettre en vente et vous partager éventuellement ce qui restera à partager. Pourquoi vous vous forcez, entre guillemets, à rester dans ce cas-là ou à conserver ce bien ?
Lui, il me dit, il me dit que ça part à lui, il voudrait bien la laisser pour notre fille. Elle est unique, c'est-à-dire j'ai qu'une seule fille. Et comme elle est très malade, elle est ado, mais elle est malade, en fait, il me dit, si jamais de notre vivant, on lui laisse rien du tout. J'ai ce poids-là sur le dos et je ne sais pas quoi faire, en fait.
Mais là, le bien, il y a encore un crédit dessus ou pas ?
Oh, il y a, ce, il y a un gros
beaucoup,
crédit,
mais... il est important.
Il est plus de 110
000
euros.
D'accord. Dans ce cas-là, ça n'intéresserait pas monsieur de conserver le bien. Enfin, c'est facile de donner des leçons, mais d'être dans la position la plus simple.
Il est à la retraite, justement, et moi, je suis son emploi. En fait, mon contrat vient de se finir là, du mois de février, et ça me crée une peur terrible.
Ben oui, on peut comprendre, entre guillemets, cette insécurité. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, madame, c'est que... alors, évidemment, monsieur dit, pas d'inquiétude, je réglerai la moitié de la taxe foncière. Alors, j'imagine que c'est pas le poste financier le plus important. Mais d'abord, ça n'engage que lui. Vous voyez, c'est-à-dire que...
il m'a dit, on va le mettre devant...
Oui, vous savez, c'est toute la difficulté, madame. C'est-à-dire que... monsieur est à la retraite. Si demain, pour une raison lambda, il a envie de vous pourrir la vie et de dire, ben moi, j'ai plus envie de payer, même si c'est écrit noir sur blanc, ça signifie de votre côté engager une procédure pour faire exécuter la décision. Donc, voilà, il y a pas d'automatisme. Donc, alors après, c'est la bonne ou la mauvaise foi.
À tout moment, quoi.
Mais le vous savez, la loi n'interdit pas d'être idiot. C'est-à-dire que si je veux faire le pénible, je peux décider de ne pas respecter un contrat. Alors oui, peut-être qu'à moyen ou long terme, je finirai par être condamné, mais ce sera d'abord des démarches de votre côté. Éventuellement, consulter encore un avocat pour pouvoir faire exécuter cette décision. Il faudra aller voir un huissier de justice. Donc, la pseudo-gentillesse de monsieur ne vaut pas grand-chose. Et puis, ce qui me surprend, vous me dites que vous ne travaillez pas, c'est ça ?
Non, je viens de finir mon contrat, là.
D'accord. C'est que l'intégralité, a priori, de ce que je crois comprendre, du crédit, est à votre charge.
Oui. Bon,
alors,
oui,
voilà, je m'autorise pas à mettre en cause les compétences de votre avocat, mais c'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire que on a des magistrats qui accordent ce qu'on appelle la jouissance du domicile conjugal, c'est-à-dire qu'on va vous dire, écoutez, ce domicile, madame, vous allez le conserver, mais comme vos revenus alors sont faibles ou même parfois inexistants, je vais mettre à la charge de monsieur, alors pas forcément la totalité du crédit,
non,
ou parfois du loyer, mais au moins une partie,
non,
voilà,
pas
pour
du
vous
tout,
voilà, pour vous soulager quand même.
Ça fait 3 ans que je paye, c'est moi qui paye tout. Et l'avocat, ça fait 3 ans que je cherche à faire un divorce. Ça fait parce que
alors, la procédure est un peu longue.
Elle est trop longue, oui.
Ouais. Oui, mais là, ça fait 3 ans que c'est en cours.
C'est 3 ans parce qu'on divorce pour violence conjugale et
oui.
C'est reconnu par les médecins légistes.
D'accord, c'est-à-dire que vous avez des certificats médicaux et autres.
Elle tarde beaucoup, mon avocat, malheureusement. Elle tarde beaucoup, j'ai pas compris, parce que moi, j'ai pas d'argent à lui ramener, donc...
Alors, vous savez, en règle générale, les magistrats, et en particulier en matière de violence conjugale, font en sorte, alors tout est relatif, mais font en sorte que le dossier aille quand même un peu plus rapidement que
non,
voilà, qu'un divorce, on va dire, classique.
Je ne sais pas pourquoi, mais non.
Donc c'est
pourtant, il a eu 7 mois de prison avec sursis.
Ah oui, d'accord. Oui, donc, oui il y a eu des sanctions.
Il y a eu des dégâts, oui, ouais. Il y a eu des dégâts.
Mais là, au moment où on se parle, j'allais dire concrètement, est-ce que, alors j'espère que oui, mais donc la deuxième partie de la procédure a quand même eu lieu. C'est-à-dire, est-ce que le terme assignation au divorce vous dit quelque chose? Est-ce que ça a été fait?
Assignation, non,
voilà,
ça ne
c'est,
rien
en fait, c'est
tout.
La deuxième partie de la procédure.
Oui, elle vient à peine de la lancer, ça fait quelques mois. Oui,
mais madame, tout. Alors la difficulté, oui. C'est que ça risque de traîner encore plus longtemps. Vous savez, il y a une règle, quel que soit le procès, il y a toujours l'une des parties, en l'occurrence monsieur, qui lui a tout intérêt à faire traîner les choses. C'est-à-dire que son avocat, mais moi j'en veux même pas à l'avocat de monsieur, cet avocat est dans son rôle, va faire en sorte que la procédure soit une procédure à rallonge, puisque ça va peut-être finir, entre guillemets, par vous décourager, par vous dégoûter. Et d'ailleurs, voyez...
Et là, ça le décourage parce qu'il me dit, bien, on va faire à la
voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous voyez, le truc,
ouais,
c'est ça.
Ouais,
c'est
ouais,
que,
ils sont voilà. Arrivés à leur temps,
ben oui,
en fait.
C'est qu'au bout d'un moment, on va vous dire, bon, on va laisser tomber la procédure pour faute, et puis on va basculer sur une procédure de divorce à l'amiable. Alors, la raison est simple, parce qu'il est certain, madame, que si monsieur a été condamné à de la prison avec sursis, donc d'abord, le divorce pour faute, en tout cas, si vous allez jusqu'au bout, il sera prononcé, c'est une certitude, mais ça se traduit par des dommages et intérêts. Donc le magistrat condamnera monsieur à une sanction pécuniaire, donc il devra verser de l'argent, donc il est certain que monsieur a tout intérêt à vous faire changer d'avis, en gros à vous dire on va oublier tout ça et pour aller très vite, on va plutôt opter pour une procédure de divorce à l'amiable. Mais vous avez bien compris que si vous acceptez cette procédure de divorce à l'amiable, tous les éléments que vous avez concernant les violences de monsieur à votre égard, le magistrat ne va pas statuer dessus. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, madame... maintenant, elle veut un divorce à l'amiable, donc tout ce que vous avez pu invoquer va rester de côté. Donc, en gros, monsieur va mieux s'en sortir.
D'accord. Parce que là, il me dit cette semaine, il me dit, de toute façon, bon, j'ai des éléments, je vais les présenter. J'ai dit, tu présentes. Parce que moi, faut savoir que moi, je suis ici toute seule en France, j'ai personne, mais vraiment personne. Il n'y a que Dieu au-dessus. Et donc, je me bats comme je peux, j'ai ma fille qui est malade, je me bats comme je peux, quoi. Donc, voilà.
Mais la position de votre avocat, madame, c'est quoi? Alors, j'imagine que vous lui avez dit, entre guillemets, cette proposition de monsieur, vous en avez parlé?
Non, qu'est-ce qu'elle vous dit? J'ai du mal à décrocher un rendez-vous avec elle. J'ai vraiment du mal. Elle me dit, je suis seule et vous le savez très bien, elle me l'a fait comprendre que. Avec ce que paye le tribunal pour ce genre de
d'accord.
Personnes qui n'ont pas les moyens.
Alors, madame, j'allais vous poser la question. Vous êtes à l'aide juridictionnelle?
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Bon, alors on en parle souvent dans
cette émission.
Alors, ce serait pas sérieux que de dire que tous les avocats qui interviennent à l'aide juridictionnelle ne font pas leur boulot correctement.
Oui.
Il faut savoir qu'un avocat
oui.
à l'aide juridictionnelle a le même diplôme, la même compétence que l'avocat
oui.
qui ne serait pas à l'aide juridictionnelle. Maintenant, il est certain, c'est une réalité, c'est comme ça. Ça fait jamais plaisir de le dire et puis ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que certains confrères considèrent que dans la mesure où c'est au titre de l'aide juridictionnelle, donc ils seront indemnisés par l'État. Alors d'abord, ils seront indemnisés à la fin de la procédure, même si la procédure dure très longtemps. Mais le montant de l'indemnisation n'étant pas à la hauteur des honoraires qui sont demandés pour une procédure de divorce, ils sont pas hyper hyper motivés. Donc évidemment, maintenant je comprends un peu mieux ce que vous êtes en train de dire, il y a cet aspect-là, madame. Mais il ne faut pas hésiter, j'allais dire, à lui mettre, alors gentiment évidemment, mais à lui mettre quand même la pression, parce que 3 ans de procédure et,
c'est ça,
et
c'est
la
parce
deuxième.
Qu'il y a mis justement de la pression, c'est
la deuxième partie.
Voilà,
la deuxième partie,
ça me semble.
Vous risquez, alors, soit la procédure va être très longue, soit vous allez finir par en avoir marre, et pour aller plus vite, vous allez accepter, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Et donc, ce serait contre-productif pour vous.
Oui.
Donc, mais enfin, vous savez, si dans l'absolu, madame, au titre de l'aide juridictionnelle, si pour des raisons lambda, vous ne réussissez pas à avoir le moindre contact avec votre, votre avocat, il ne vous est pas interdit d'en informer le bâtonnier, c'est entre guillemets le patron des avocats, pour dire, écoutez, moi, Maître Truc m'a été désigné, et puis je ne réussis pas à décrocher un rendez-vous avec, avec Maître Truc. Et c'est l'ordre des avocats qui va contacter la consoeur pour lui dire, il y a madame qui essaie de vous joindre, merci de faire le nécessaire. Alors, c'est pas la meilleure des méthodes, j'aime pas tellement ça, mais au bout d'un moment, il faut bien s'adresser à celui qui a le pouvoir de faire réagir l'avocat. Et en l'occurrence,
c'est exactement, en plus, ce avril-là, ça va faire pile 3 ans. C'est beaucoup.
Bah, c'est encore une fois, c'est beaucoup.
Même
et ça me semble.
Psychologiquement, je suis détruite.
Bah oui, ce qui est surprenant, c'est qu'en plus, a priori, vous avez tous les éléments qui justifient les violences de monsieur. Donc, elle devrait profiter de ça.
Voilà, Yamina. Et puis, faut penser aussi à vous faire prendre en charge psychologiquement, parce que là, vous êtes vraiment émotionnellement très. Très en bas, hein, Yamina.
Oui, oui. Merci beaucoup.
Il y a quelqu'un qui vous aide ou pas?
Personne, j'ai personne. En tout cas, je suis toute seule.
Ouais, on entend bien. Hein, donc, mais faut peut-être en parler à votre médecin aussi, hein, Yamina.
J'en ai parlé. Il faut voir tous les numéros qu'il nous donne, les 39 machins, l'assistance, tous. L'assistante, vous parlez avec elle, elle se retourne contre vous. Elle se retourne, elle me dit, mais oui, mais restez comme ça, moi, c'est votre fille qui m'intéresse, si vous êtes comme ça, tout le temps malade, contre moi.
Comment voulez-vous prendre en charge votre fille si vous-même, vous êtes en bas, vous voyez?
Oui, mais ils ne m'aident pas en même temps, personne ne m'aide, personne.
Bon, restez en ligne, Yamina. On prendra d'autres appels dans un instant, hein, si vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serran au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous posez vos questions à Maître Serran en direct les samedis de 9h à 10h. Et si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, eh bien vous pouvez appeler Maître Serran sur son téléphone cellulaire. Dont le numéro s'affiche en bas de votre transistor, mais qu'il donne à l'antenne également.
Et qui est le 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Maître Serran qui consulte le samedi d'ailleurs. Hein.
Oui, absolument. Ouais, donc n'hésitez pas. Alors là, si vous appelez, il faudrait me contacter soit dans la demi-heure qui suit le départ de cette radio, donc jusqu'à 10h30, parce qu'après je suis en rendez-vous jusqu'à 14h. Donc après, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler. Hein.
Bien. Alors, Faudil, c'est bien joli d'éternuer, mais alors qui on prend là? C'est Didier qui est avec nous, c'est ça?
Didier.
Ah, Didier, pardon. Moi, j'ai l'habitude de Didier. Voilà, on rajoute un « i », c'est Didier. Didier, bienvenue.
Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger.
Ah, vous nous arrangez, voilà. Didier.
Bonjour Didier.
Je suis un citoyen français qui est marié avec une citoyenne marocaine, France. Ouais. Ça fait à peu près pas loin de 2 ans qu'on est mariés. Ouais. Et la petite chose, ben voilà, dès qu'on s'est mariés, on s'est mariés le 17 septembre 2021. Et tout de suite, 2 mois après, on a fait, vous savez, une demande de récépissé.
Oui.
Bon, on a reçu normalement, un truc valable pendant 3 mois. Et ensuite, au bout d'un mois de ce récépissé, nous avons reçu un papier OQTF.
D'accord, donc on demande à madame de quitter le territoire.
Voilà.
D'accord.
Ensuite, de là, moi, tout de suite, j'ai demandé à avoir un avocat. Et puis, bon, l'avocat, on en a trouvé un sur Paris 8. Qui a été conseillé par des amis. Et apparemment, bon, on a été le voir. Il nous a dit, il n'y a pas de problème, vous avez 90% de chance de gagner. Du coup, lui, on a payé 1 400 €. Et il nous a dit, ben voilà, vous m'amenez tous les papiers contre eux, vous avez la vie commune, etc. Et on me dit de lui dire que ça faisait même pas un an qu'on était mariés. Il a dit, vous inquiétez pas, vous les aurez. On est arrivé au jugement. Et à partir de là, si vous voulez, on n'a pas. Déjà, il était absent. Et apparemment, ce n'était qu'administratif. Alors, du coup, on a reçu le jugement. Et ça a été refusé. Madame, en fait, moi et moi-même, on est au point de départ. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prouver qu'on soit qu'il y a...
D'abord, pour répondre sur l'absence de l'avocat, il faut savoir que devant un tribunal administratif, c'est ce qu'on appelle une procédure écrite. En fait, oui. Tous les documents, tous les arguments sont déjà préalablement rédigés, envoyés dans ce qu'on appelle un mémoire. Donc, oui. Votre avocat n'a pas à être physiquement présent. Donc, le fait que l'avocat ne soit pas présent, c'est pas ça qui aurait été nuisible au dossier en disant bah tiens il est pas venu donc on a perdu. Voilà, donc c'est une procédure écrite. Ça c'est le premier point. Maintenant vous avez toujours la possibilité d'interjeter appel. Le motif qui est invoqué par les autorités préfectorales, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que, malgré le mariage, on considère que madame doit retourner au pays ? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un mariage,
trop jeune.
Exactement, bidon ?
Il a mentionné sur le jugement.
Trop jeune ?
Le mariage est trop jeune, oui.
D'accord.
Il me demande de refaire le... Soit on fait appel, sachant que j'ai remis à mon avocat contre quoi que madame était enceinte. Et il n'a pas fourni au juge. Donc,
Ah, d'accord. Alors, ça, c'est. Voilà. Donc, vous voyez, ce que vous dites est intéressant parce que très souvent, la préfecture considère que c'est un mariage de circonstance, c'est un mariage juste pour régulariser l'une des personnes. Maintenant, oui. Il est certain que si vous me dites que madame est enceinte, c'est un élément qui aurait peut-être dû être fourni au tribunal pour bien. S'assurer que ce mariage est un mariage d'amour et pas un mariage pour les papiers.
Voilà.
Mais il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire, alors d'abord, est-ce que vous êtes toujours dans le délai pour contester ?
Ah, nous venons de le recevoir il y a deux ou trois jours là, pour y recommander.
D'accord. Donc il va falloir entre guillemets reprendre cette argumentation et puis saisir la cour administrative d'appel. Reprendre encore une fois ces éléments avec le point important qui est le fait que madame est enceinte évidemment. Donc ça peut faire basculer la position de la cour d'appel.
D'accord. Et est-ce que je dois prendre le même avocat ou je suis obligé
c'est-à-dire que ce serait pas sérieux de ma part de dire tiens, l'avocat n'a pas obtenu gain de cause donc il est mauvais. Voilà, on peut pas raisonner comme ça. Après, c'est une histoire aussi de feeling. C'est à vous de voir si vous estimez que l'avocat a bien fait son travail. Mais voilà, on a parfois des magistrats qui jouent les compliqués. Vous restez avec lui. Si vous estimez ou si vous avez quelque chose entre guillemets à reprocher à cet avocat, dans ce cas-là, faudra en changer. Mais l'avocat qui vous dit qu'il gagne tous les procès est un grand menteur. Donc, il arrive parfois que ça ne passe pas devant une première juridiction. Pour autant, l'avocat est toujours aussi compétent et puis il peut obtenir gain de cause devant la cour d'appel. Donc, ça, c'est vraiment. C'est vraiment quelque chose que vous sentez ou que vous ne sentez pas.
D'accord. Honnêtement, je ne le sens plus du tout parce que là, j'ai plus confiance.
Alors voilà, ça c'est important.
Il a fallu de payer, vous savez, de main à main parce qu'il prenait l'argent liquide directement. Tu passes, on l'a payé en 4-5 fois. Hein.
Alors, il n'est pas interdit de payer l'avocat en liquide à partir du moment où il vous remet un justificatif de paiement.
Une facture.
Oui, voilà.
Oui, c'est pas une enveloppe.
Oui, voilà.
Je n'ai pas de facture là-dessus.
D'accord. Donc là, ça peut être problématique. Mais effectivement, oui. C'est-à-dire que vous réglez en espèces, il vous remet quand même un justificatif de règlement à minima.
Oui, à parler de chèques. Bon, il m'avait dit pas de chèques et je lui ai fait des chèques. Bon, ils ont été débités, il n'était pas très content, mais bon.
Ah, d'accord. Mais non, encore une fois, monsieur, alors vous pouvez, vous savez, c'est important, la confiance qu'on peut accorder à l'avocat, mais si cette confiance s'est émoussée, évidemment, il vaudrait peut-être mieux, dans ce cas-là, changer d'avocat.
D'accord.
Vous connaissez un bon avocat, Maître Serran ?
Alors oui, je connais un bon avocat, évidemment. C'est un avocat qui officie tous les samedis matin.
Non. Est-ce qu'il faut le payer en liquide ?
Mais il y aura un justificatif.
Ouais, parce qu'on m'a dit qu'en ce moment, vous aviez besoin de liquide, M. Serran.
On peut payer en liquide. Oui, c'est vrai. Un jour, je vous raconterai. Là, je suis.
Ah ouais. Moi, ça me démange tellement d'en parler que.
Non, mais je peux pas pour l'instant. Oui, mais à cause de qui ? à cause de qui j'ai demandé, j'ai lancé un appel officiel à la radio pour dire, écoutez, on a besoin d'eux. Et personne n'a appelé. Donc, au bout d'un moment...
Mais Serran est obligé de mettre la main à la poche.
Ouais.
Bon.
Mais donc, non, encore une fois, monsieur, si vous avez l'impression que la confiance n'est plus, oui, contactez un avocat.
D'accord. Et donc, je peux me rendre directement au tribunal administratif dès lundi pour pouvoir faire un appel, ou c'est un avocat qui doit le faire ?
Non, non, c'est, ah oui, ça c'est important, c'est l'avocat qui va interjeter appel. C'est-à-dire que si vous changez d'avocat, votre avocat va contacter, donc le nouvel avocat va contacter l'ancien pour lui dire, voilà, il y a monsieur qui veut changer d'avocat, on va demander la transmission du dossier. Et c'est le nouvel avocat qui va interjeter appel, donc qui va rédiger ce qu'on appelle le mémoire, et tout ça se fait en fait par internet.
D'accord, ça c'est en tout.
Voilà.
Bien, Didier, voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui.
D'accord, parce qu'en fait, je me retrouve avec madame qui peut pas voir ses enfants au Maroc, etc. Donc c'est quand même assez compliqué.
D'accord, ah, madame a des enfants au Maroc.
Oui, deux petites filles, une de 11 ans et une de 9 ans. Donc, c'est assez compliqué.
D'accord, mais c'est ça en dit long quand même sur la complexité du dossier. C'est peut-être aussi pour ça...
Finalement, c'est pas si simple.
C'est peut-être aussi pour ça que le tribunal a considéré que madame avait plus d'intérêt au Maroc que sur le territoire
au Maroc,
français.
En France,
ouais,
bien sûr.
Donc,
oui.
Voilà, c'est pas si évident que ça.
Non, c'est pas si évident, hein.
Bon, Didier, sinon vous pouvez appeler Maître Serran après l'émission. Maître Serran, rappelez s'il vous plaît votre numéro de téléphone.
Alors, allez-y. Je suis joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, mais c'est vrai que s'il y a des éléments qui sont importants, il faut les dire avant, parce qu'effectivement, cette information change toute la nature du dossier. Et explique beaucoup de choses. Merci Didier pour votre appel. Maître Serran, on va vous retrouver samedi.
Avec plaisir.
On vous retrouve demain dans les bois, hein, comme tout le dimanche matin.
Oui, mais dit comme ça, non, ça fait le mec pervers qui va faire je sais pas quoi dans les bois.
Dans les bois.
Du vélo.
Avec votre vélo et votre casquette.
Voilà.
Et en short.
Non, pas en short. Non,
il est venu sans casquette et sans short. C'est l'imam Abdelali Mamoun de retour. De retour de la Mecque qui sera avec vous dans un instant pour l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.